décryptage.
Anne Cantner.
Un revers de plus et pas des moindres pour Boris Johnson. La Cour suprême du Royaume-Uni a jugé illégale sa décision de suspendre le Parlement. Le Premier ministre avait imposé 5 semaines de pause aux députés avec une reprise prévue le 14 octobre, soit 2 semaines avant la date limite pour le Brexit. Décision illégale, nulle et non avenue pour la Cour suprême. Décision contraignant Boris Johnson à revoir ses plans, lui qui n'a déjà plus de majorité, qui a vu plusieurs de ses ministres lui tourner le dos et qui en principe va devoir renégocier avec l'Union européenne, ce qu'il voulait absolument éviter. Alors quelles peuvent être les conséquences de cette décision historique de la Cour suprême? Bienvenue dans Décryptage. La Cour a dû conclure que la décision de conseiller à Sa Majesté de suspendre le Parlement était illégale, car elle empêchait le Parlement de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, et ce, sans justification raisonnable. La présidente de la Cour suprême, Lady Hale, ce matin à Londres, a donc annoncé une décision historique prise à l'unanimité par les 11 juges qui composent cette Cour. Pour mieux comprendre ce qui se joue, ce que cette décision peut entraîner, nous recevons ce soir Anissa El-Jabri, reporter au service international de RFI. Vous avez effectué plusieurs déplacements au Royaume-Uni ces derniers mois pour couvrir le feuilleton du Brexit et ses nombreux rebondissements. Bonsoir Anissa.
Bonsoir.
Également avec nous par téléphone, Aurélien Antoine. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne en France et vous êtes aussi fondateur de l'Observatoire du Brexit. Merci d'avoir accepté notre invitation. La décision de la Cour suprême britannique est donc sans appel. Boris Johnson n'avait aucune raison de suspendre ou plutôt de proroger, pour utiliser le terme exact, le Parlement. Anissa El-Jabri, pourriez-vous nous rappeler d'abord les raisons qui avaient conduit Boris Johnson à prendre cette décision?
Bon, ce que avait dit Boris Johnson officiellement, c'est que il utilisait des moyens parfaitement légaux. Il voulait utiliser ce temps de suspension du Parlement pour préparer et présenter un programme de gouvernement. Ensuite, la procédure, c'est que la reine vient lire ce programme et ce discours devant le Parlement. Bien sûr, tout le monde avait compris qu'il s'agissait d'autre chose à l'époque. Les parlementaires avaient dit « c'est une manière de nous empêcher de bloquer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ».
Mais ça avait été très très mal apprécié, cette décision.
Ah oui, le moins qu'on puisse dire d'abord parce qu'on imagine mal des parlementaires accepter de se faire dessaisir de leurs droits. Ensuite, parce qu'il faut bien l'avoir en tête, c'est une démocratie parlementaire, la plus vieille démocratie parlementaire, la Grande-Bretagne. C'est donc extrêmement enraciner le rôle, le pouvoir du Parlement. Il y avait eu un tollé, une immense colère, des formules d'ailleurs extrêmement fortes. John Bercow, le président de la Chambre des communes, avait parlé d'un affront à la Constitution, un scandale et une menace pour notre démocratie. Ça, c'était les mots du patron des travaillistes, Jeremy Corbyn. Il y avait une députée de son camp qui avait même utilisé ces mots, ceux de coup d'État. Et même dans la majorité à l'époque de Boris Johnson, vous rappelez justement en introduction qu'il n'a plus de majorité, mais parmi tous ces conservateurs dit modéré qu'on n'entendait plus tellement depuis la nomination de Boris Johnson, cela avait dit ça ne pourra pas se passer comme ça.
Alors pourtant ce principe de prorogation du Parlement n'est pas exceptionnel au Royaume-Uni. Aurélien Antoine, en quoi est-ce que cela consiste exactement?
Alors la prorogation, c'est interrompre purement et simplement les travaux des chambres. C'est-à-dire, c'est pas une simple suspension. Une suspension, une fois que vous revenez au travail, vous reprenez les travaux là où ils se sont arrêtés. Là, ça mettait fin à tout. Et le nouveau programme aurait dû suivre, comme l'a dit votre confrère, suivre le discours du trône. Donc évidemment, c'était une rupture brutale et particulièrement longue au cas d'espèce, puisque ça faisait 5 semaines en tout.
Alors on l'a dit, la décision était très 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 mal passée, un certain nombre de recours avaient été déposés et la Cour suprême a donc rendu sa décision aujourd'hui, immédiatement après. L'opposition travailliste a demandé la démission de Boris Johnson.
Cela démontre son mépris pour la démocratie et à quel point il abuse de son pouvoir. Alors j'invite solennellement Boris Johnson à démissionner et à devenir, écoutez bien, à devenir le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire.
Prime Minister there's ever been.
Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, devant ses militants lors du congrès du Labour aujourd'hui. Aurélien Antoine, Boris Johnson peut-il garder son poste de Premier ministre ?
Écoutez, moi si j'étais à sa place, cette succession de camouflés me conduirait effectivement à réfléchir fortement à la question. Mais il sait bien que s'il veut rester dans l'histoire, il faut qu'il délivre le Brexit. Malheureusement, on ne sait pas quelle stratégie il a. D'ailleurs, les déclarations qu'il a formulées à la suite du jugement de la Cour suprême sont relativement pondérées, mais on ne voit poindre aucune stratégie véritable. Donc je crois qu'il va falloir attendre, et je ne préfère pas faire pronostic, tellement il est difficile d'en faire dans le contexte du Brexit.
Boris Johnson a pris connaissance de cette décision à New York, où il doit prononcer un discours tout à l'heure devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Comment est-ce qu'il a réagi, Anissa Al-Jabri ?
Bon, deux choses, sur la forme et sur le fond. Ce qui est sûr, c'est que Boris Johnson, en fait, a fait du Boris Johnson. Sur la forme, il est décoiffé, il sourit, il s'amuse, il fait même des blagues à la presse. On l'a vu faire rire les gens qui étaient en face de lui sur sa ligne. C'est classique, sa réaction, c'est de dire, c'est presque une formule, je respecte la décision, mais je ne suis pas d'accord avec elle. On a quand même un chef de gouvernement qui critique une Cour suprême. On est pleinement dans cette stratégie du peuple contre les élites, qui sont donc les députés à Westminster et puis qui sont aussi les juges. Je vous donne quand même un exemple du climat au Royaume-Uni. Cet après-midi, je regardais les comptes Twitter du camp du Leave, qui donc avait fait campagne pour le Brexit. On y voyait circuler la photo des 11 juges de la Cour suprême avec ce commentaire « Enemy of the people », ennemi du peuple.
Donc une stratégie qui fonctionne. D'après vous, Anissa Al-Jabri, est-ce que Boris Johnson peut conserver son poste de Premier ministre ?
Mais en tout cas, certains analystes en Grande-Bretagne lui prêtent une stratégie. Alors c'est toujours un petit peu compliqué quand on la prête, et puis c'est toujours la fin de l'histoire qui dira si c'était bien le cas. Ce qui a été beaucoup observé, c'est que quand certains députés de son camp avaient été exclus du parti puisqu'ils avaient voté contre une consigne gouvernementale, on a observé que c'était tous ces conservateurs modérés. Ceux-là vont se voir opposés lors de prochaine campagne électorale d'autres candidats, des candidats qui sont pour le Brexit, qui sont sur une ligne conservatrice très très forte. Ce qui se dit en fait, c'est que Boris Johnson, grâce à tout cet épisode, a en fait procédé à une purge du parti qui ne disait pas son nom, et qu'en cas d'élection, il aura, et ça il l'a fait dire par des conseillers, derrière lui un camp qui sera entièrement sur sa ligne et des députés entièrement à sa main.
Boris Johnson, devant la presse, a répété également aujourd'hui que le Brexit aurait bien lieu le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Pourtant, les députés ont voté une loi qui l'oblige à demander un nouveau report si aucun accord n'est trouvé avant la mi-octobre. Aurélien Antoine, peut-il s'affranchir de cette loi ? Comment est-ce qu'il peut concilier sa parole de sortir de l'Union européenne fin octobre et le respect de cette loi ?
Eh bien, il ne le peut pas sans accord. C'est-à-dire qu'il doit obtenir un accord. D'ailleurs, c'est un peu l'argument qu'il présente. Aujourd'hui, il l'a dit dans ses déclarations, je travaille un accord avec l'Union européenne, il y aura un accord. Il dit effectivement que la sortie aura lieu le 31 octobre, mais la question du no deal reste en suspens. En tout cas, s'il va à l'encontre de la loi, ce serait clairement un abus de pouvoir. Les conséquences pouvaient être graves. On pouvait lire des civil servants, donc les fonctionnaires, pourraient se mettre en grève, qu'il n'aurait plus d'administration derrière lui. Vu la réaction du Parlement, il est fort à parier que des procédures pourraient être lancées pour qu'il y ait éventuellement des développements pénaux. Dominique Louis a pu évoquer cette possibilité. Donc je crois que c'est soit il trouve un accord, soit il va être conduit à la démission, ou soit il accepte de prolonger jusqu'au 31 janvier, mais sa situation est évidemment particulièrement inconfortable.
Et un nouvel accord, ça vous semble possible ? Les Européens semblent quand même de moins en moins disposés à négocier de nouveau ?
Les Européens sont absolument pas disposés à négocier. Michel Barnier, encore il y a quelques jours, exclut les propositions qui avaient été faites sur le backstop, alors que de nouvelles idées avaient émergé, le fameux filet de sécurité pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre les deux Irlandes. Et c'est vrai qu'on est dans une situation de blocage que l'on connaît depuis longtemps. Et c'est pour ça que le Parlement doit lui aussi prendre ses responsabilités, maintenant qu'il peut à nouveau siéger, et peut-être trouver une alternative qui permettrait de sortir Boris Johnson et d'avoir un accord.
Anissa El-Jabri sur ce point.
Alors, ce qui se disait en coulisses la dernière fois que j'étais à Londres, qui était donc début septembre, lors de cette reprise du Parlement, c'est qu'il y avait deux possibilités, peut-être même trois en réalité. Qu'en fait, Boris Johnson, en pensant à des élections anticipées et avoir une majorité à sa main, se dit qu'il reviendrait à l'origine du texte que n'a jamais pu faire passer Theresa May, qui était d'installer ce fameux backstop qui pose problème et qui était bloqué par le parti nord-irlandais, le DUP, de se dire on pourrait l'appliquer uniquement à l'Irlande du Nord. Donc je rappelle que c'est resté dans l'union douanière. Finalement, l'Irlande du Nord, dans le reste de la Grande-Bretagne, que ce soit un petit peu séparé du reste du pays, ça susciterait pas beaucoup de vagues. Ça permettrait de dire j'ai signé un accord, je vous garantis une sortie, votez pour moi. Ou bien tout simplement qu'on passerait là plutôt dans une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que si Boris Johnson quittait le pouvoir après le Conseil européen des 17 et 18 octobre, eh bien on serait dans une forme de vide juridique, car c'est vrai que les Européens ont toujours dit repousser une sortie de l'Union européenne, ça se fait sur un motif très sérieux, par exemple des élections anticipées, sauf que pour ça, il faut que quelqu'un demande ce report. Il faut que ce soit le Premier ministre. Et s'il y a une vacance du pouvoir aujourd'hui, on sait que tout le monde a toujours su être très inventif juridiquement dans cette affaire. Pour l'instant, on ne sait pas qui demanderait ce report. Et on tomberait dans ce qu'on appelle le no deal by accident, une sortie de l'Union européenne sans accord, par accident, littéralement.
Pour l'instant, ce qu'annonce en tout cas Boris Johnson, c'est un Brexit à tout prix le 31 octobre. Est-ce que ce Brexit à tout prix, ça commence pas finalement à coûter trop cher au Premier ministre et aux conservateurs? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, Anissa El-Jabri, mais est-ce que finalement il ne fait pas prendre trop de risques à son parti ?
Alors, rien n'est moins sûr, parce que c'est vrai que la presse a beaucoup titré sur toutes ces défaites parlementaires, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de camouflets pour un Premier ministre, et on pensait déjà que Theresa May avait quand même brisé beaucoup de barres et beaucoup de records là-dessus. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, le rapport de force politique reste extrêmement favorable à Boris Johnson, en raison de la faiblesse de l'opposition, c'est vrai aussi, on va peut-être en reparler, mais s'il y avait des élections aujourd'hui en Grande-Bretagne, Boris Johnson l'emporterait, et surtout, en fait, le match en Grande-Bretagne pour l'instant se joue entre le Parti conservateur et le Brexit Party de Nigel Farage. En tenant une position aussi dure, Boris Johnson peut aller récupérer tous ses électeurs qui sont partis et qui lui permettraient aujourd'hui de s'assurer une majorité à sa main. En réalité, Boris Johnson est un homme politique, est un homme qui parie sur la politique intérieure. Il se dit que c'est comme ça qu'il peut gagner.
Alors le président de la Chambre des communes a annoncé tout de suite après la décision de la Cour suprême d'annuler donc cette suspension du Parlement. Le président de la Chambre a annoncé que les travaux des députés reprendraient dès demain, mercredi, et ce à
11h30. En raison des exigences de notification préalable, nous ne pourrons pas organiser de séance de questions au Premier ministre ce mercredi. Cependant, pour éviter tout malentendu, nous donnerons toute la latitude nécessaire pour poser les questions urgentes, pour les déclarations ministérielles et pour les demandes de débat d'urgence conformément à l'article 24.
John Bercow, le président de la Chambre des communes, a prévenu donc qu'il ne s'agirait évidemment pas d'une séance tout à fait comme les autres. Boris Johnson devrait partir plus tôt de New York et arriver à Londres demain matin. La situation paraît complètement bloquée. Pourquoi l'opposition refuse-t-elle des élections législatives anticipées, Anissa El-Jabri ? On l'évoquait à l'instant.
Alors, elle a beaucoup hésité. Aujourd'hui, il y a un vrai front parce que beaucoup de gens ont évidemment intérêt à s'opposer et à tenir une ligne. Mais l'opposition, en fait, c'est pas simplement les travaillistes, dont on sait que le leader Jeremy Corbyn est en plus l'homme politique le plus détesté du Royaume-Uni. L'opposition, c'est aussi les libéraux-démocrates et les indépendantistes écossais. Les libéraux-démocrates sont les centristes. Ils affichent une ligne pro-européenne très très forte. Pour eux, des élections, ça serait vraiment s'assurer une forme de résurrection, puisqu'on sait quand ils s'étaient alliés à David Cameron sous la précédente législature, ils avaient ensuite été balayés aux précédentes élections. Donc là, ils se disent qu'ils peuvent récupérer un électorat centriste, un électorat pro-européen, une partie des modérés du parti conservateur. Pour les Écossais, c'est un peu la même histoire. D'ailleurs, la chef du parti conservateur en Écosse a démissionné de ses fonctions. Elle le sait. Elle sait que l'électorat écossais est anti-Brexit. Ses chiffres ont encore augmenté. eux, ils savent aussi que ça peut leur assurer davantage de présence au Parlement. Et puis, ils n'oublient pas leur but essentiel, hein, c'est pourquoi pas relancer un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Il reste les travaillistes, et pour eux, et ce sont eux qui freinent, ils ont réussi à obtenir que ce calendrier, pour l'instant, soit un petit peu repoussé, parce qu'effectivement, et on l'a encore vu ce week-end lors du congrès du parti travailliste, ils sont extrêmement divisés. La position que tient Jérémy Corbyn, qui essaye de ménager en quelque sorte la chèvre et le chou, à la fois ses députés qui sont majoritairement anti-Brexit et ses électeurs qui sont plutôt pro-Brexit, ceux-là sont un peu gênés aux entournures. En fait, tous les trois ont trouvé pour l'instant une forme d'accord qui est de se dire on affaiblit Boris Johnson jusqu'au bout. Et à la fin, a priori, on peut peut-être ramasser la mise.
Et pour l'instant, cela tient, parce que si je comprends bien, les autres partis dont vous parliez, libéraux-démocrates, le Parti nationaliste écossais, ça, ce sont des partis qui pourraient être tentés par des élections législatives anticipées rapides.
Oui, pour l'instant, le front tient. En fait, la vraie question, c'est combien de temps Jeremy Corbyn, lui, pourra-t-il tenir ? Parce que Boris Johnson enfonce le clou. Il l'avait déjà fait au mois de septembre dernier, avant la suspension du Parlement. Il lui avait dit « Vous avez peur d'élections, je veux des élections ». Il l'avait traité de « poule mouillée ». Le lendemain, ce terme de « poule mouillée » était à la une de tous les tabloïds britanniques. Aujourd'hui, encore Boris Johnson a enfoncé le clou en lui disant « Pourquoi a-t-il peur ? Pourquoi Jeremy Corbyn ne veut-il pas aller devant les électeurs ?»
Il y avait même eu des montages photographiques. Alors même si la date est encore incertaine, aujourd'hui ces élections anticipées semblent inévitables. Aurélien Antoine, qu'est-ce que pourrait changer un scrutin législatif ? Parce que le Parlement a déjà rejeté à plusieurs reprises l'accord qui avait été négocié par l'ancienne première ministre Theresa May et l'Union européenne. Les choses pourraient-elles être différentes avec d'autres députés ?
Alors, tout dépend de l'issue des élections. Comme l'a rappelé votre confrère, si Boris Johnson, après avoir fait s'être débarrassé des modérés de son parti, arrive à avoir une majorité qui le soutient vers un Brexit coûte que coûte, eh bien, on saura clairement vers quel cap on va. Le grand problème, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, se faire réunir le Parlement aujourd'hui ou avoir un Parlement sans majorité avec une opposition ou une majorité qui n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire, et ben c'est tout le problème que pour l'instant rien ne résout, ni même d'ailleurs la décision de la Cour suprême d'aujourd'hui. Le nombre de noms qu'on a eu au printemps, c'est exactement le même type de configuration qu'on aurait aujourd'hui si le Parlement se réunit et demain si on a un Parlement sans majorité. La véritable difficulté de cette affaire, c'est que en définitive, face au cap de Boris Johnson, que l'on le soutient ou qu'on ne le soutient pas, eh bien, il n'y a pas d'alternative crédible. Les tergiversations des travaillistes sont, de ce point de vue, assez insupportables. Et la tactique qui consiste à dire on va affaiblir Boris Johnson et ensuite, ben, ça nous permettra de prendre le pouvoir. Excusez-moi l'expression, mais c'est de la tactique du gendarme, c'est de la tactique politicienne qui n'est pas à la hauteur de la crise que subit le Royaume-Uni. Ce qu'il faut, c'est une alternative crédible, éventuellement de coalition de bonnes intentions contre le plan de Boris Johnson pour parvenir à un accord avec l'Union européenne qui permettra une sortie organisée. Or cela, l'opposition est aujourd'hui en incapacité de le faire. Et pour revenir à Jeremy Corbyn, il n'a cessé pendant près, depuis 2017 et les dernières élections générales, d'exiger de nouvelles élections, fin août, début septembre, d'exiger trois conditions, elles étaient remplies pour qu'il y ait de nouvelles élections. À la suite de discussions avec les autres partis d'opposition, il est revenu sur ces trois conditions et tout compte fait, il n'a pas soutenu l'autodissolution du Parlement. En définitive, ce à quoi on a affaire, c'est quand même une qualité de classe politique particulièrement médiocre qui n'est pas à la hauteur de la crise que subit le Royaume-Uni.
Anissa Jabri.
Oui, et c'est ce que soulignent d'ailleurs tous les commentateurs de la presse, c'est que pendant ce temps-là, l'amertume et la colère grandissent dans le pays, la division aussi, et tout le monde se demande quand est-ce qu'on va enfin en sortir.
Et tout le monde joue un petit peu sur cette opposition entre le Parlement qui jouerait pour ou contre le peuple finalement.
Oui, il y a aussi fondamentalement cette question démocratique qui n'est toujours pas tranchée. Qui décide, pourquoi ? On a l'impression d'ailleurs qu'au-delà du Brexit, on est sur une question, une crise profonde et d'identité et de représentation, oui.
Et la Cour suprême en tant que arbitre de la vie démocratique au Royaume-Uni, ça vous semble être un vrai changement dans le fonctionnement du système ou c'est temporaire dans ce moment exceptionnel pour le Royaume-Uni ?
Alors c'est à nouveau une décision, c'est un tremblement de terre constitutionnel, hein, avaient dit les commentateurs, c'est vrai. Mais encore une fois, il faudra un temps long pour que, peut-être probablement une génération, disent les spécialistes, pour que le pays tire les leçons de cet épisode.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, de nous avoir aidé à y voir un peu plus clair. Anissa El Jabri, reporter au service international, et Aurélien Antoine, fondateur de l'Observatoire du Brexit.